La direction de Prony Resources recevait ce matin les sous-traitants du Sud. Ces rouleurs sont mobilisés depuis mardi dernier devant l'usine de Goro. Le nickel, dossier forcément important pour la mission interministérielle présidée par Claire Durieux. Il s'agit de permettre aux métallurgistes de retrouver de la rentabilité. Vers une transformation de l'administration avec le passage au numérique, le gouvernement a lancé un chantier de dématérialisation de ses directions et des établissements publics de Nouvelle-Calédonie. L'actualité festive du week-end sur le territoire à Point-d'Imier, la tribu de Saint-Denis accueillera demain l'amicale des Bretons et des Amis de la Bretagne. Le sport, c'est la suite du BNC Tennis Open sur les cours du Wentoro cet après-midi. La finale du double, c'est la paire japonaise Koshuhara à Nakayagawa qui s'est imposée. Et puis la suite de nos rétros de l'année 2025. À la fin de ce journal, Mickaël Juneski reviendra sur une année de sport en Calédonie. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, cet incendie qui est en cours à la Tontouta, il s'est déclaré derrière la station Shell aux alentours de 16h. Les pompiers de Païta sont sur place, appuyés par les renforts nationaux et qui sont toujours sur place. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie ni son ampleur. La circulation n'est pas pour l'instant interrompue sur la RT1 malgré la présence de fumée. Soyez vigilants bien évidemment si vous passez dans ce secteur. Une partie des sous-traitants de PRNC sont mobilisés depuis mardi devant l'entrée de l'usine, un mouvement qui ne perturbe pas le fonctionnement du site. Ces sous-traitants, qui appartiennent pour la plupart à la Fédération des entreprises du Sud, réclament notamment une revalorisation de leur taux horaire, Jean-François Bodin.
Et les négociations à ce sujet durent depuis plusieurs mois, mais n'ont pas débouché. C'est l'une des raisons pour laquelle PRNC a convoqué ce matin les sous-traitants et les prestataires, car il s'agissait aussi de leur présenter la situation financière de l'entreprise et leur faire part des prévisions pour l'activité des sous-traitants en 2026. Ces derniers comprennent les difficultés de l'industriel, mais eux aussi en rencontrent, explique Jérémy Atiti de Capterrassement.
On est sur des contrats de court moyen terme. Pour nos investissements 2023-2024, on a été pas mal pénalisé avec la partie crise. Ça a été des reports interminables et on arrive au bout des reports. Et il nous faut trouver une solution pérenne pour nos sociétés pour qu'elles puissent traverser la période de crise qui encore nous impacte encore journalièrement.
Cette rencontre avec la direction de PRNC a été positive selon les sous-traitants, y compris ceux qui sont mobilisés depuis le début de la semaine. Ces derniers devraient mettre un terme à leur mobilisation, a expliqué le président de la Fédération des entreprises du Sud, Anthony Lecrain.
On en sort satisfait des discussions. Donc il y a eu une présentation de la situation qui a rappelé les réalités financières de PRNC. On savait plus ou moins que la situation n'était pas facile. C'est un élément qu'on a toujours pris en compte, mais bon, on en sort satisfait. Donc on a besoin de se coordonner entre nous pour prendre une décision. Il est sûr que dans les heures qui suivent, la décision sera prise sur la démobilisation, en sachant qu'on a des prochaines réunions prévues de façon individuelle avec PRNC et qui vont porter sur les prix.
La direction de PRNC devrait donc rencontrer chacun des sous-traitants dans les semaines qui viennent. PRNC, vous le savez, qui avance dans la recherche d'un repreneur. Elle a reçu une offre qui est actuellement à l'étude.
Le dossier nickel, c'est l'un des dossiers sur lequel travaille la mission interministérielle de reconstruction dirigée par Claire Durieux. Actuellement sur le territoire, elle était notre invitée ce matin, 7h30. Deux leviers existent pour permettre aux métallurgistes d'être de nouveau rentables, a-t-elle existé ?
Vous le savez, les usines de transformation sont dans une situation extraordinairement difficile. Elles ne sont pas rentables. Elles perdent des centaines de millions d'euros par an. Et donc l'État intervient en soutien, mais il ne pourra plus intervenir si on ne retrouve pas des perspectives de rentabilité. Donc si on ne trouve pas un chemin pour que ça redevienne rentable, au moins à horizon 2028, 2029, 2030. Et donc pour ça, les potentiels repreneurs disent très clairement: pour qu'on reprenne et pour qu'il y ait un chemin de retour à la rentabilité, il y a deux conditions sine qua non cumulatives. Un soutien massif de l'État. Bon, ça c'est un levier qui appartient à l'État. Il faudra qu'il y ait des décisions. Et deux, il faut qu'on puisse exporter les résidus non valorisables. C'est-à-dire le minerai qui en fait est d'une teneur trop faible pour être transformé sur place sur le territoire. Qui aujourd'hui ne peut pas être exporté, mais qui a une valeur sur le marché mondial. L'export de ces résidus non valorisables, ça dépend d'une loi de pays, ça dépend uniquement du territoire, et ça, c'est dans les mains des élus. Donc, effectivement, les repreneurs ont mis le sujet sur la table, et maintenant, il appartient au territoire de savoir s'ils souhaitent ou non sauver ces usines.
L'intégralité de cet entretien avec Claire Durieux est à retrouver, évidemment, podcast sur notre site internet rrb.nc. Le bilan de la visite des députés Ensemble pour la République. Depuis lundi, 9 députés macronistes sont sur le territoire à l'invitation de Nicolas Metzdorf pour se rendre compte des réalités de la Nouvelle-Calédonie depuis les émeutes de mai 2024. Léana Colombo.
Une visite dense, condensée en 5 jours avec des séquences institutionnelles au Sénat coutumier mais aussi au Congrès. Une rencontre avec les acteurs économiques, une visite d'exploitation agricole en brousse et une découverte du lagon. Le tout associé à de multiples rencontres avec les Calédoniens du Mont-d'Or-Sud et de Dumbéa à Jacarandas notamment. Une visite utile aux députés pour mieux appréhender les prochains textes qui seront votés sur le sujet calédonien à l'Assemblée nationale, selon le député de la première circonscription Nicolas Metzdorf.
Pour moi, c'est une vraie victoire parce que vous savez, quand vous me voyez prendre le micro dans l'hémicycle et que je parle de la Nouvelle-Calédonie, forcément, les gens écoutent et puis soutiennent. Mais il y a quelque part une forme de solitude. Peu de personnes connaissent vraiment la Nouvelle-Calédonie. Et je sais que ces députés-là, la prochaine fois, quand je prendrai le micro, ils saisiront de quoi je parle, clairement. Ça peut être aussi des relais quand je ne suis pas là. Ce qui me marque, c'est qu'eux, ils considèrent que l'accord de Bougival est déjà une énorme concession des loyalistes. Et ça, ça fait plaisir à entendre. Enfin, il y a une forme de reconnaissance de nos efforts pour maintenir la paix et le développement de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus beau message qu'ils donnent, c'est que c'est désormais au gouvernement national, à l'État central, d'appliquer l'accord de Bougival et pas demander aux Calédoniens, encore une fois, des tergiversations alors qu'on a fait le taf.
Pour les députés, le constat est simple. Le travail ne fait que commencer, mais 2026 s'annonce comme une année essentielle. Il est temps d'avancer sur la question de l'avenir institutionnel et sur l'accord de Bougival, qui n'est selon leurs termes pas un brouillon de base pour un futur accord, mais un document concret qu'il faut ratifier. Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine.
Je le dis et je le clame très haut, Bougival n'est pas un document de travail, Bougival est un accord historique. Et d'ailleurs, le terme d'accord historique ne vient pas de moi. Je cite dans le texte le président de la République au moment de la signature de ces accords, au mois de juillet 2025. Et je pense que ce qui serait aujourd'hui incompréhensible, c'est de revenir sur les propos du président de la République, qui est un homme de parole. Donc ce que nous attendons, nous, en tant que parlementaires du groupe Ensemble pour la République, de Gabriel Attal, aux côtés de notre collègue Nicolas Metzdorf, c'est que la date du 16 janvier soit une date d'officialisation de la mise en œuvre de ces accords. Et je pense que c'est assez cohérent de s'attendre à ce que cela soit le cas.
Les députés Ensemble pour la République ont également pris le temps de rencontrer tous les groupes politiques du territoire, à l'exception du FLNKS qui n'a pas répondu aux multiples sollicitations. Les 9 députés qui quittent donc le territoire ce soir au terme d'une visite de 5 jours.
L'administration calédonienne passe à la vitesse supérieure sur le numérique. Le gouvernement a lancé un chantier de dématérialisation de la chaîne comptable et financière des directions et établissements publics du territoire, Léana.
Des travaux qui ont débuté il y a déjà plusieurs mois. Ce chantier s'inscrit dans le plan d'évolution de l'administration et bénéficie d'un soutien de l'État à hauteur de 42 millions de francs. Des conventions ont été signées ce matin pour sécuriser les échanges numériques, notamment avec la Trésorerie et la Chambre territoriale des comptes. Florence Bonafou, présidente de la CTC, accueille ce nouveau dispositif avec enthousiasme.
Pour nous, ça change beaucoup de choses. Historiquement, nous recevons donc toutes les liasses papier des comptables que nous stockons en dessous de la chambre et dans un autre lieu de stockage annexe en ville. Donc là, de passer à des CD-ROM, évidemment, c'est un gain de place. C'est surtout un gain en temps de travail, en charge de travail, en risque physique pour les personnels qui doivent manipuler toutes ces liasses. Et donc, c'est très pratique pour nous de ne plus qu'avoir des CD-ROM. Et puis, pour les techniques de contrôle, passer à la numérisation des données, c'est extrêmement pratique, parce que ça nous permet de requêter ces données et de remonter ou descendre, comme on dit, la piste d'audit, c'est-à-dire de passer du mandat à la pièce justificative ou inversement des pièces justificatives au mandat pour vérifier la cohérence de l'ensemble.
Une évolution qui permettra donc moins de paperasse, plus d'efficacité. Fini les dossiers papier pour les mandats, les recettes ou les pièces justificatives. Tout se fera désormais en ligne avec des procédures plus rapides et des paiements accélérés. Samuel Martinet, le chef de projet à la direction du budget des affaires financières au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
C'est près de 100 000 feuilles de papier qui sont envoyées par tous les établissements publics chaque année, qui vont progressivement être remplacées par des flux dématérialisés. Donc c'est des fichiers qui sont envoyés avec un protocole sécurisé vers le comptable public. Sur la cybersécurité, nous, on est alignés sur les protocoles de Bercy du ministère qui encapsulent les fichiers avec les informations comptables avec une signature enregistrés et ceci passe par les serveurs de Bercy pour redescendre auprès des comptables. Donc on est vraiment aligné sur le standard national et même européen pour la signature électronique. Donc une énorme économie de papier, de traitement, de vitesse de traitement, d'archivage, avec derrière des meilleurs contrôles et un meilleur délai de paiement.
L'IFAP et l'Agence Rurale ont été sélectionnés pour être les deux établissements pilotes du projet depuis fin novembre 2025. Ils ont donc pu expérimenter cette dématérialisation en premier et Laure Virapin, directrice de l'Agence Rurale, constate un réel gain de temps.
Ça a été déjà beaucoup de travail pour les équipes, bien accompagné effectivement par les équipes du gouvernement. Ça a été du travail en fin d'année, qui est quand même la période la plus dense au niveau des paiements, les clôtures, etc. Et on a dû travailler en doublon, c'est-à-dire pendant 2 mois, on a fait papier et dématérialisation, là, pour être sûr que le système fonctionne. On pense que ça va nous apporter beaucoup de confort, une économie de papier évidemment, dans les processus également des simplifications, puis beaucoup de fluidité, puisque la numérisation, c'est aussi moins de déplacements, transporter ces papiers à la trésorerie, là tout est par flux numérique. Et ça ne peut apporter que du confort et des économies, bien sûr.
Prochaine étape, courant 2026, la dématérialisation sera étendue à une vingtaine d'établissements publics. Et en 2027, ce sont l'ensemble des services du gouvernement qui devraient à leur tour tourner définitivement la page du papier.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à la question d'hier, 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS approuvent la décision du gouvernement de supprimer 2 jours chômés dans la fonction publique en 2026. Ils sont 14% à ne pas approuver cette décision. Voici notre question du jour. L'Europe doit-elle afficher une position ferme face à Donald Trump qui convoite le Groenland? Si vous pensez qu'elle doit afficher une position ferme, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. Il est 17h57, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Info soir, Lionel Sabot.
Et l'actualité dans la région Pacifique en Australie, des centaines de sapeurs-pompiers volontaires luttent contre des incendies qui ravagent de nombreuses régions de l'État du Victoria. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Les conditions avaient été qualifiées de catastrophiques par les autorités. Et catastrophiques, elles se sont avérées avec des vents secs et chauds et des températures souvent supérieures à 45 degrés sous abri. Ce qui explique en partie la férocité des incendies qui sont en train de progresser dans le Victoria, où ils ont déjà calciné plus de 70 000 hectares de végétation, de même qu'une plantation de pins de 1600 hectares. Ranka Ruffy, un petit village de 200 habitants situé à 175 km au nord de Melbourne, une trentaine de maisons, un local communautaire, une école et un centre téléphonique ont été détruits. Un pompier volontaire a été évacué sur Melbourne après avoir été sérieusement brûlé aux mains alors qu'il y combattait les flammes. Des ordres d'évacuation immédiates sont également en place dans plusieurs localités de la région directement menacées par les flammes. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Retour en Calédonie et jetons un coup d'œil à l'actualité festive du week-end qui va commencer à Point-d'Imier, la tribu de Saint-Denis accueillera demain l'amicale des Bretons et des amis de la Bretagne, l'Armorique. Les bénévoles de l'association proposeront un événement culturel au cœur de la tribu avec au programme des ateliers sur inscription. Les précisions de Marthe Tillon, la présidente de l'Armorique.
C'est grâce à la rencontre avec Elna. Elna Le Peu a des origines bretonnes et elle nous a dit si on faisait quelque chose sur Point-d'Imier. Et on a dit On y va, go. Nous allons avoir donc 4 ateliers. Ça sera des ateliers sur inscription. Donc, il y aura un atelier palais. Alors, le palais breton, c'est plutôt dans le pays gallo. Ça va ressembler un petit peu à la pétanque. C'est une planche. Donc, il y a un petit que l'on lance en premier. Et il faut se rapprocher du petit. Donc, on peut jouer soit tout seul, soit en double, soit en équipe. Un atelier gastronomie. Nous n'en disons pas plus. C'est la surprise. Un atelier danse et un atelier culturel. Ce sera justement sur la Bretagne, des questions sur la Bretagne. Donc, il y aura un diaporama, mais ce sera très ludique.
Une journée culturelle bretonne qui débutera à 9h. C'est demain à la tribu de Saint-Denis sur la commune de Poindimier. À Dimbéa, le parc Fayard accueillera à dimanche de 6h à midi à la fois un marché de producteurs et un vide-grenier mensuel. À Farino se tiendra ce dimanche, vous le notez, à part le premier marché de mamie de l'année. C'est sur la place de la mairie et bien évidemment c'est de 8h à midi. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu, c'est à 14h qu'a eu lieu le tirage au sort de notre jeu chance. Et c'est Christelle qui est ce mois-ci notre grande gagnante et qui va partir, écoutez bien, quelques jours à Bouraille.
Allô ?
Oui, bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir bonjour. Christelle s'il vous plaît ?
Tout à fait.
Christelle, je suis Lionel de Radio Rythme Bleu.
Je crois que je vais m'arrêter parce que là je suis en train de conduire et je sens que ça commence à battre.
Est-ce que vous avez joué avec RRB ces derniers jours ?
Oui, pour un séjour de 6 nuits à Poé, c'est pas ça ?
Si, si, oui. Il y avait ça comme jeu sur Radio Rythme Bleu et vous avez gagné.
Ah, mon Dieu. Merci beaucoup. Oh, c'est super. C'est bientôt mon anniversaire en plus. C'est grandiose. Ben, je me passe pour y croire. Je joue depuis une éternité. J'ai jamais rien gagné, donc j'y crois pas. Merci beaucoup. Une très bonne année à tout le monde.
Et bravo à Christelle qui a donc gagné ce très beau cadeau. 6 jours à l'hôtel de Poé, de vol en ULM au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM. Cadeau d'une valeur de 122 000 francs. À rendez-vous désormais demain pour le coup d'envoi d'un nouveau jeu chance. Car ce Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Allez, l'actualité sportive, on va parler tennis puisqu'il y avait cet après-midi la finale du BNC Tennis Open, la finale du double. Rappelons que ce sont les Japonais Kusuraya et Nakayawa qui se sont imposés en 2-7 sur la paire australienne Delaney Peter Gill. Score final 7-5, 6-3 à suivre d'ici quelques minutes. Le coup d'envoi des demi-finales du tableau de simple. Et puis du tennis, il y en aura ce week-end évidemment, avec la grande finale du BNC Tennis Open qui est prévue, si la météo le permet, demain à 16h30. Juste avant la finale, le paratennis s'invitera au Challenger de Nouméa avec des matchs d'exhibition. Ce sera de 15h à 16h. Autre rendez-vous sur le territoire demain, l'haltérophilie avec la 3e édition de la Coupe de Dimbéa. Le rendez-vous est donné dès 9h à l'Halle Michel Castex. Au programme compétition jeunes U10 et U13, mais aussi juniors et seniors, femmes et hommes. Un petit mot de footgolf également pour signaler que le Calédonien Hervé Guevara participe ce week-end au tournoi international de Dubaï, une compétition qui rassemblera les joueurs de 31 pays différents. Direction maintenant les pelouses européennes de rugby avec la 3e journée de la Champions Cup qui sera au menu de votre week-end sportif en métropole et dans le monde. Le Castres Olympique ouvrira le bal demain matin contre Bath, dimanche matin Clermont accueillera Glasgow, le Stade Rochelet défiera le Leicester, l'Aviron Bayonnais jouera contre Leicester. Enfin, la section paloise ira affronter les Scarlets. Dans la nuit de dimanche à lundi, le RCT recevra le Munster et puis l'Union Bordeaux-Bègles accueillera les Saints de Northampton. En clôture lundi matin, le Stade Toulousain sera sur la pelouse des Saracens. Du football également ce week-end avec les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À 3h la nuit prochaine, le Mali jouera contre le Sénégal. Puis à 6h, le Cameroun sera opposé au Maroc. Dans la nuit de demain à dimanche, choc au sommet entre l'Algérie et le Nigeria. Puis le tenant du titre, l'Égypte, défiera le tenant du titre, la Côte d'Ivoire. Le football, c'est aussi en métropole les 16e de finale de la Coupe de France qui débuteront la nuit prochaine. On suivra notamment Angers-Toulouse, Monaco sur la pelouse d'Orléans, Strasbourg à Avranches et Lens contre Sochaux. Lille-Lyon est programmé lundi matin. Et puis le deuxième derby PSG-PFC, ce sera à suivre mardi matin. Et enfin, Bayeux Olympique de Marseille mercredi. Un petit mot de sport d'hiver avec en ligne de mire évidemment les prochains Jeux Olympiques à Milan-Cortina. Dans un peu moins d'un mois, ce week-end, des épreuves de ski alpin se dérouleront en Autriche et en Suisse. Les épreuves de biathlon se dérouleront en Allemagne, à Oberhof, et puis le Dakar, avec la sixième étape ce soir, avant une journée de repos demain, et puis la septième étape dans la nuit de dimanche à lundi. Pour rappel, après cinq étapes, c'est l'Australien Daniel Sanders qui est en tête dans la catégorie moto, et le Sud-Africain Henke Laktan qui domine la catégorie auto. On termine avec la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, l'Unicalo pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Moto, auto, météo, avec Pierrot.
C'est exactement ça. Météo. C'est compliqué de se concentrer. Merci. Excusez-moi.
C'était pas bien. Allons-y.
Allez, concentration. Météo. Vigilance météo, vent violent. Vigilance jaune en cours. Un alizé de sud-est soutenu atteignant plus de 25 nœuds avec des rafales dépassant 35 nœuds concernera la côte ouest de Nouméa à Bouraï avant un affaiblissement en cours de nuit, puis la côte est de Thio à Poum en fin de nuit. Samedi après-midi, le vent pourra de nouveau se renforcer localement sur le sud-ouest avec des rafales pouvant atteindre 65 km/h. Cette nuit, sur la façade ouest, les pluies s'estomperont rapidement, laissant place à un ciel temporairement dégagé. Sur les autres régions, les nuages resteront nombreux avec des averses fréquentes plus marquées en seconde partie de nuit, des loyautés à la pointe sud jusqu'à l'île des Pins. L'alizé de sud-est restera fort, dépassant encore 25 nœuds avec des rafales supérieures à 35 nœuds sur la pointe nord et la côte est. Ailleurs, il faiblira progressivement, touchant au soufflant entre 20 et 25 nœuds en soirée et 15 à 20 nœuds sur l'ouest. La nuit restera chaude avec des températures comprises entre 22 et 26 degrés. Demain matin, le ciel sera très nuageux à couvert avec des averses parfois soutenues. C'est super pour le week-end. Sur le sud, des loyautés, l'île des Pins et le sud-est, un coup de tonnerre restera possible. Le vent d'est à sud-est soufflera entre 20 et 25 nœuds sur le sud, l'île des Pins, Marais et Lifou. Sur le nord, Bélep et Ouvéa, il restera un cran en dessous, entre 15 et 20 nœuds. Et côté marée pour nos amis les pêcheurs, elle atteindra son niveau le plus haut dans la nuit, autour de minuit 24. Elle redescendra ensuite pour une basse mer attendue demain matin vers 6h18. Avant de remonter à la mi-journée avec une pleine mer prévue vers midi 48.
Merci Pierre.